undergo? Is a good heart determined by froze? What if the KKK wore froze? Would they suddenly have soul? If I don't hug you on both sides, am I truly off balance? If I shake with my left hand, did I truly disrespect a man? Man, oh man, it's hard to be a conscious African. If you're conscious of the double stand, I mean double standards, understand? Oops, I mean overstand. There it goes again. I guess it's just the way of the world, or maybe just the way of the words. Speaking of words, the conscious scene ain't down with the way Tupac and Biggie did they things. Now ain't that something? They're just more blatant with their womenizing statements. While we're more slick, but we'll make booty calls just as quick. Like Atari, both of us controlled solely by joysticks. We dissed the white man for being so materialistic. Yet we the only ones going ballistic to get his materials. We ice friends to make cream.
Future is Now is a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Galleries, Sharzad Arshadi, and Caroline Kunzli. The title comes from a song by German punk rock singer Nina Hagen. She sings, 1968 is over, it's over. Future is now. It's really going to be a better world. Her lyrics express our feeling that change for a better world is happening right now through the work of many. In each episode, Future Is Now will tell you these stories of change, stories of artists and art projects that inspire us. As you listen, we hope these stories will inspire you too.
Future is now.
What you're going to hear in this episode of Future Is Now is what happened to Iranian women singers and Iranian women in general after the 1979 fundamentalist revolution. We recorded this episode a couple of days before the brutal murder of Jina Mahsa Amini, a 22-year-old Kurdish woman who was brutally murdered by the Islamic regime's morality police in Tehran on September 16, 2022. According to the Iranian morality police, she was not wearing her hijab properly. Her hair was not fully covered. Starting in Kurdistan and spreading all over Iran, women have been walking in the streets in the thousands every day since then, and removing and burning their hijabs, their veils, in public. Iranian women's bravery is unimaginable and beautiful. They are shouting Zhen Jian Azadi, women, life, freedom, a slogan inspired by Kurdish women's struggle. I'm using Jina, her Kurdish name, instead of Mahsa because officially she couldn't have a Kurdish name in Iran. It's not allowed. We dedicated this episode to Jina Amini and all the brave women and men who are risking their lives to overthrow the Islamic Republic of Iran. They say, enough is enough. Jina has become the code name for the revolution in Iran, a feminist revolution. Welcome to another episode of Future Is Now. I am your host, Sharzad Arshadi. In this episode, I invite you to travel with me to the Caspian Sea, to the beautiful province of Gilan in the north of Iran, the place where I was born and grew up, a place that I never imagined I would be forced to leave behind one day. Forbidden Voices tells the story of voices that were silenced right after the fundamentalist Muslim came to power in Iran after the 1979 revolution. A story about the female and queer singers of my generation. The voices I grew up with during my childhood and youth in Iran in the late 60s and 70s. This is a performance project that I first performed as part of the eclectic 2018 festival, Ajay Dejante at Mai. It's a small part of a bigger performance project that Caroline Kunzel and I are working on. Music and songs are one of the most important aspects of our everyday life. Imagine one day, as a woman, your voice becomes forbidden. I know it is unimaginable. It is hard to believe. But this is what happened to us, Iranian women, and what is happening right now in Afghanistan.
43 years
have passed, and women's singing solo voices are still forbidden on national TV, radio, in concert halls, and public performances. No women are allowed to sing in public unless their voice is part of a choir or the background singing for a male singer. Like women with no hijabs, a woman's singing voice is considered seductive and evil and must be banned. Of course, Iranian and Afghanistani women are constantly fighting to take back rights that have been taken away from them. For my family in the north of Iran, every summer was a time to go to the beach, to our cottage near the blue and restless Caspian Sea. For us children, time by the sea, the real definition of freedom and heaven. Growing up in the north, life was just perfect. All summer, our home was always full of guests, family and friends coming from other parts of the country. A home full of good food, fresh fish, rice, and fresh vegetables, with my mother's masterful cooking. I can never forget the incredible, delicious food she cooked for us every day. Long summer nights with my father's stories about his life and incredible adventures. Summers with so much laughter, singing, and dancing. It seems so far away. Now thinking about it, it seems like an incredible dream. I vividly remember a hot summer evening in 1976, sitting alone on the beach with my beloved transistor radio, a birthday gift from my father. Kamaron Muluk Waziri's song was playing on the radio. Into my thought, thinking about a guy, a young man, who had been following me on my way to school every morning for the last 2 months before the summer holiday began. He never said a word during that 10 minutes walk behind me. But the last morning before the summer holiday was different. I could feel him getting closer. Finally, as I was 5 steps away from my school's gate, I heard his voice for the first time. "Can you tell me your name?" I hesitated and wished to look back, but shyness was stronger than my courage and forced me to rush inside the school without turning back, without giving an answer to his question. The moon was bright and beautiful. I turned my radio's volume up. Kamar was still singing.
Thank you.
the voice of a messenger, the voice of a courageous bird, a seamore, a phoenix who had risen from the ashes of the darkness more than 100 years ago, not so long after the 1905 constitutional revolution in Iran. On that summer evening, while I was listening to her voice, I never thought about how significant Qamar's role was in the lives of Iranian female artists, or how deeply she affected Iranian women's lives in general. It's hard to believe, but it was only during my great-grandmother's and my grandmother's era when for the first time ever a female singer dared to step up onto the stage at the Grand Hotel on the famous Lal Azhar streets in Tehran without a hijab, without a veil to perform. I was born and grew up during the 60s and 70s, a period when the famous Lal Azhar street in the heart of Tehran was filled with cafes, theaters, discos, and many vibrant large and small cabarets. Like most teenagers, music was an important part of my everyday life. My dream once was to become a singer. The 70s was a time of tight pants and miniskirts in Iran. A time when lovers could walk hand in hand in public without fear of being arrested. A time that fans knew that our most popular showman was gay. Every week during his show, the streets of the cities were deserted. We were all sitting in front of our TVs, watching him and being mesmerized.
از جسم و جان خود بودم و دل می کشیدم بحرش از جان دل می بردم اشوا خود سوی من زدگیسویش از باد و باران گشته آشفته در هر هر رویان روی مرواری دلتن صفته بشد راه دشوار آخر بر من و یار با بوسه گرمی رو دادم با لبهای چوغن رویم زد لبخن بردن همه رنج و غم از یادم بی سویش از باد و باران گشته آشفته در رویش دوی مرواری دلتن صفته شب بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آوشم حرسم بود از سردی افسر روی جان بود در قطره تنسیم بر خوشگل از جسم و جان خود بودم آفر می کشیدم برش از جانبه می بردم اشراح و تیم منزل
Fereydoon Farrokhzad, a brilliant artist who was forced into exile after the 1979 Islamic Revolution and was murdered, brutally cut into pieces in his house at the hands of the Iranian regime's agents in August of 1992 in Germany. He was fearless and outspoken. He used every possible opportunity to speak his mind about the reactionary mullahs who were running the country in the most disgraceful way. But the Iranian fundamentalist regime couldn't tolerate any opposition, even outside of the country. The 70s was when Ramesh, one of my generation's most famous female singers, a lesbian diva, lived without a fear of being stoned to death in public for her sexual orientation, for her sexual preferences.
تابستون و قیادم میاره من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه، من نمازم تو رو هر روز دیدنه، از لبه
1978 and 79 were years of Iranian people's uprising for political freedom, a time during which we all had hope to establish a democratic government. But things changed drastically. Fundamentalist regime kidnapped our revolution and crushed our hopes. It seems everything happened overnight. Hezbollah's mobs started attacking and burning down bars, cabarets, and even movie theaters. For the new regime in power, art was sinful and a tool to promote Western values. Songs and music that I grew up with were completely banned from TV and radio. Even just listening to songs from before the 1979 revolution was a punishable crime. Regular pop songs become underground music, and regular people become smugglers in order to be able to listen to the songs and music they grew up with, music that they loved. Darkness spread all over Iran. Imprisonment and execution become an everyday matter. It is hard to believe how drastically Iran's history changed in the past 100 years. Nelly was one of my favorite singers from the mid-70s, a tiny, gentle, young and beautiful pop singer with a heavenly voice. Who could imagine that listening to her gentle voice would become a crime one day? After the establishment of the Islamic Republic of Iran, Iran's supreme leader, Ayatollah Khomeini, declared a fatwa, a religious order, to forbid women from singing in public. Religious leaders and mullahs believe, like women's hair, women's voice have the potential to trigger immoral, sexual, and sensual arousal. For this reason, we are honoring those voices that were taken away from us. We are honoring those who can imagine a world with no discrimination, to the honor of those who never gave up their dreams, and to remember the singers who lost their voices during the past four decades under the fundamentalist rules. Here I am. Here we are, willingly triggering immoral, sexual, and sensual arousal by singing and dancing. Let's end here with a song from my mother's favorite singer, Haydee. In this song, she said, "Let's laugh, sing, and dance, because tonight is the night of love." I hope while you're listening to Haydee's song, you will sing and dance with her. Azadi, women, life, freedom. Thank you for listening. The future is now. I am Shahrzad Arshavi. Until next time, goodbye. And please don't forget to be kind.
You've been listening to Future is Now, a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Gallery's Shahrzad Arshadi and Caroline Künzli. This project was made possible by funding from the Canada Council for the Arts.
Future is now.
Hey, this is Claire Jenkins. You're listening to 90.3 CKUT Montreal FM.
Trying to make her holler. She had taken up a cautionary measure, worn his shirt underneath her sweater, a reminder that even though he was away, it was up to her not to stray. And oh, 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 the band played on.
Oh. Denmark Center is pleased to present When Big Man Talk, the exhibit. Come experience a captivating fusion of paintings, photography, an immersive virtual reality experience and more. To kick off the exhibit, Jam Arts is presenting the film African Redemption, The Life and Legacy of Marcus Garvey, screening January 31st at 7 p.m. at the Maison de la Culture Côte des Neiges. Then experience When Big Man Talk, the exhibit, from February 3 to 10 at Galerie Lucie Michel, and after that from February 11 to 14 at the UNIA. For tickets, call 438-507-9258 or head to jam-montreal.com and click Jam Arts Center.
Black Theater Workshop presents the world premiere of Diggers by Donna Michelle St. Bernard. Abdul and Solomon introduce newbie Bai to the intricacies and dignity of grave digging. But when illness hits their town, they must make the best of a bad situation. Full of song, laughter, tears, and beautiful humanity, Diggers is a tribute to essential workers. Catch Diggers at the Siegel Center Studio from February 1st to the 17th. Get your tickets at siegelcenter.org or call 514-739-7944. More information at blacktheaterworkshop.ca. This is a Black Theater Workshop and Prairie Theater Exchange co-production and CKUT co-presentation.
What's going on, y'all? It's your girl, Miss Ben, and it's Black History Month. So you know we'll be kicking it every Tuesday right here on CKUT 90.3 FM. Every Tuesday from 3 to 5, I bring to you Heal, Black Girl Heal, where we discuss some in-depth conversations with those that got some things going on within the Black community. And let's not forget about all of the plentiful activities that you need to keep up to date with. So do not forget, each and every Tuesday for the month of February, right here on CKUT 90.3 FM.
Oui, les enfants.
Qu'est-ce qu'on va faire cette année pour la semaine de relâche?
Bien, nous allons aller glisser.
Encore?
Maman, on fait toujours ça.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Euphoria!
C'est quoi ça, Euphoria?
Euphoria offre des activités éducatives et théâtre aux enfants pour la semaine de relâche.
Oui, maman. Jeudi le 7 mars, au complexe La Providence de midi à 18h. Il y aura 10 kiosques d'ateliers gratuits. Peinture, sculpture, couture, confection de bijoux, bricoréno, jeux de sauce, société, Lego, danse, cuisine et jeux gonflables. Tout cela gratuitement.
Waouh!
Et vendredi le 8 mars au centre Leonardo da Vinci, deux pièces de théâtre. Le chat beauté à 13h pour les bouchous de 3 à 6 et Bookie et Malice à 16h pour les 7 à 13 ans. Seulement $30 pour adultes et enfants.
Alors, qu'est-ce qu'on fait cette année pour la semaine de relâche?
Euphoria!
Billets en vente partout et sur Eventbrite. Info 438-994-7615. 438-994-7615.
¡Yay! Fuego Fuego, el festival de música latina más grande de Canadá, está de regreso con los artistas más populares del género urbano. No te pierdas a Maluma.
Ay, otro chisme más que te cae.
Raúl Alejandro, Mora, John Mico, Ivy Queen y muchos más. 25 y 26 de mayo en el Parque Olímpico de Montreal. Dos días llenos de fiesta, ritmo y sabor latino. Consigue tus boletos en festivalfuegofuego.com. Ya están a la venta.
Hace 25 años lo coronaron
Rey del Reggaetón.
Tres generaciones han bailado su música.
Don Omar.
Don Omar en su nuevo show Back to Reggaeton. Si se habla de reggaeton,
hay que hablar del rey Don Omar. The King is Back.
Domingo 17 de marzo, Montreal, Place Bell. Boletos a la venta por Ticketmaster. Produce CMN.
What's up, Montreal? It's your boy, Freddie V, representing Eclipse and the Community Vibe Collective. Yo, just bigging up your local community radio station, Montreal's only 90.3 FM, CKUT.
future is now.
Future is Now is a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Galleries, Sharzad Arshadi, and Caroline Künzli. The title comes from a song by German punk rock singer Nina Hagen. She sings, 1968 is over, it's over. Future is now. It's really going to be a better world. Her lyrics express our feeling that change for a better world is happening right now through the work of many. In each episode, Future is Now will tell you these stories of change, stories of artists and art projects that inspire us. As you listen, we hope these stories will inspire you too.
Future is now.
Ces sons qu'on entend font partie de la trame sonore de Nikotoaso, une installation vidéo créée par l'artiste Atikamekw, Catherine Boivin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous partager une conversation que j'ai eue avec Catherine au sujet de son œuvre qui a été présentée au Centre d'artistes autochtones Daphne en juillet et août dernier. Moi, je m'appelle Caroline Künzli. Et je vous souhaite bienvenue à un autre épisode de notre balado sur la création et le changement social. Future is now.
Quickway, Catherine Boivin, Kazon, and Dikomek Neruzeonin, Wemetashik Nipotstan. Bonjour, ben, mon nom c'est Catherine Boivin, je suis Atikamek Neruzeo et Quickway. Bonjour.
Bonjour Catherine, merci beaucoup de venir parler avec moi. J'ai eu la chance de voir ton exposition Nikotoaso au Centre d'artistes autochtones Daphne. Ben, ça m'a beaucoup inspirée, j'ai vraiment beaucoup aimé et je veux en savoir plus. Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre, peut-être pour commencer, m'expliquer le titre?
Ben, Nikotoaso, c'est dans ma langue Atikamekw. Moi, je suis Atikamekw et... Même là, je vais le prononcer comme il se doit, Adikomek. Oui. Donc, Nikotoaso, ça veut dire 6, c'est le chiffre 6. Parce qu'en fait, il y avait 6 écrans et ça fait aussi référence aux 6 saisons. Donc, c'est vraiment une œuvre en cercle, mais en cycle également, parce que dans le fond, les 6 saisons représentent vraiment l'année et donc aussi le temps là-dedans qui vient embarquer. C'est vraiment une œuvre en cercle.
Il y a 6 points dans les cercles et tu parles de 6 saisons. C'est quoi les 6 saisons?
Oui, en fait, dans ma culture Atikamekw, nous avons 6 saisons. Il y a 2 autres saisons qui viennent avant l'hiver et avant le printemps. Donc, c'est des moments où il y a des choses qu'on fait à ce moment-là, mais que quand les signes apparaissent, bien, on fait certaines choses avant que la saison d'hiver arrive ou la saison du printemps. Donc, dans notre culture, c'est ainsi.
Dans chaque écran vidéo, on voit une jeune femme autochtone. Elle se déplace aussi. Je me demandais si tu pouvais en parler.
Bien, les femmes représentent des femmes de mon entourage, des femmes qui m'inspirent. Des femmes que je n'ai pas connues, mais que j'ai entendues parler à travers les histoires de mes parents. Parce que nous, on fonctionne beaucoup par l'oralité. Et une de mes cousines, qui est également artiste, avait sorti cette expression-là. Puis je trouvais très inspirant, là, qu'elle disait que nous sommes les extensions de nos ancêtres et de nos grands-parents qui ne sont plus aujourd'hui. Mais c'est ça, nous sommes comme des extensions d'eux. Et ça m'avait beaucoup inspiré, cette phrase-là, et je trouve que c'est ce que j'essaie d'aller chercher dans cette œuvre-là, de représenter en fait nos ancêtres, mais aussi de représenter nos grands-mères, leur force, leur beauté, mais aussi ce que j'aimerais léguer à ma fille, mais les femmes qui m'inspirent beaucoup plus aujourd'hui, là, mettons, des femmes qui m'entourent, c'est comme ça que mon choix s'est posé, en fait. Je suis allée chercher, en fait, des personnes qui sont proches de moi, mais aussi des personnes que je sais qu'elles seraient intéressées à être représentées devant les écrans. Donc, tu sais, c'est vraiment le passé, mais le présent, mais aussi pour le futur, que j'essaie de représenter avec les femmes.
Quand j'étais assise, j'étais là avec une amie, on s'est assise, on l'a regardée deux fois. On a cette impression, comme tu dis, c'est comme un genre de quelque chose d'éternel, parce que on dirait que c'est au-delà du temps, justement.
Mm-hmm. Oui.
Puis aussi dans la façon qu'elles sont habillées, j'ai beaucoup aimé les vêtements.
Mm-hmm.
Est-ce que tu peux parler plus de comment elles sont habillées puis les choix qui ont été faits?
Oui, ben en fait, je me suis beaucoup inspirée du style à découvrir comment nos grands-mères s'habillaient. Donc, on peut voir les jupes à carreaux là, que les femmes portaient autrefois, mais qui aujourd'hui revient à la mode. Je vois les personnes de ma génération qui s'inspirent de ces codes-là, de ces codes vestimentaires-là, et c'est ça que je suis allée chercher un peu. Et je voulais également un peu m'inspirer des styles powwow, des régalias de powwow. Et je voulais, en fait, essayer de recréer quelque chose de post-moderne, des habits qui s'inspirent du passé, mais qui reviennent... qui sont plus stylés, mais stylés.
Oui, oui. Ils sont très contemporains. Il y a vraiment un mélange de comme ancien et contemporain.
Oui, exactement. Puis c'est ce que j'aimais, en fait, de ces vêtements-là. T'sais, j'étais très satisfaite du résultat parce que ça s'inspire de beaucoup de choses que je veux qui reviennent aujourd'hui. Mais qui reviennent parce qu'en fait, beaucoup de femmes, comme je disais, s'inspirent beaucoup de ces styles-là. Puis même là, aujourd'hui, j'ai pris une des jupes que j'ai intégrée dans mon habit, dans mon régalia. Donc, je danse maintenant avec cette robe-là parce que je suis très contente de pouvoir mettre les couleurs Atikamekw dans le contemporain aujourd'hui.
On entend aussi le son dans la vidéo. Peux-tu me parler de ce qu'on entend quand on regarde les images et qu'est-ce que ça représente?
Il y a beaucoup de bienveillance dans les paroles. Je parle un peu des souvenirs parce que, tu sais, la langue du Québec est encore très vivante aujourd'hui et je voulais tellement honorer ma langue, honorer la force qu'elle dégage. Quand je parle de la langue Atikamekw, j'en parle souvent avec ma mère, qui m'a beaucoup aidée à travers ça. C'est elle, d'ailleurs, qui a traduit le texte de l'exposition, là, qu'on peut lire. Et elle m'a aidée, en fait, elle m'a fait comprendre que la langue a survécu malgré le fait qu'on a été coupé de notre culture. Et ce que j'ai compris à travers les discussions, c'est que la langue, elle est vivante, on l'a gardée, et dans ce qu'on retrouve dans la langue, c'est l'occupation du territoire. Donc, on retrouve une partie de notre culture dans la langue. Si on prenait le temps de décortiquer des mots, les mots que j'ai choisis, c'était souvent des mots de bienveillance qui représentent aussi la transmission intergénérationnelle. Tu sais, à un moment donné, on voit comme les femmes qui se transmettent comme de l'énergie. Et à un moment donné aussi, mais c'est ça, pendant qu'elle se passe l'énergie, mais c'est les mots que je prononce, c'est vraiment comme... Je t'adore, ou ben je te chéris, je te respecte. C'est des mots comme ça qui, dans le fond, intergénérationnellement, on aimerait que ça puisse être là aujourd'hui, parce que c'est ça qui se transmettait auparavant, avant les pensionnats. Et les pensionnats autochtones, ça a vraiment été la coupure, mais aussi le début d'une vague de souffrance pour nos parents qui ont été transmis après à leurs enfants. Et nous, dans ma génération, moi, nous voulons mettre fin à ça. Nous sommes prêts à couper ça pour qu'on puisse revenir à ces moments de douceur, à ces moments de bienveillance. Puis c'est ça que j'essaie de représenter là-dedans, c'est dans ce cercle-là, qu'on puisse revenir à ce cycle de bienveillance.
Tu en as parlé déjà, mais je voulais savoir davantage ce que tu aimerais, avec cette œuvre, communiquer, j'imagine, surtout aux femmes autochtones, peut-être aussi aux femmes non autochtones, quand on vient voir ça, qu'est-ce que tu espères qu'on reçoit comme message?
J'aimerais qu'on puisse reconnaître la force qu'on a pu garder. J'aimerais qu'on reconnaisse aussi... En fait, ce que j'aimerais atteindre, toucher le plus, c'est vraiment que les gens apprennent à l'écoute. Parce que, tu sais, je trouvais ça important que les gens soient là et prennent le temps d'écouter. C'est sûr, les gens comprennent pas ce que je dis, mais justement, je voulais apporter cette douceur-là à travers le son. Puis, ce que je souhaitais, c'est vraiment créer une écoute, tu sais, créer un dialogue entre nous. Puis, que les gens comprennent que notre langue est toujours là, est toujours présente. Et aussi, que nos femmes sont belles, que nos femmes sont fortes. Et j'espère que les gens puissent s'intéresser aussi un peu plus aux langues autochtones, parce qu'on voit beaucoup ce sujet-là, ces temps-ci, au sujet de la langue française qu'on veut protéger, mais on dirait que c'est un peu au détriment des autres langues qui sont déjà présentes ici sur ces territoires, et on essaie, nous aussi, à tout prix, de les garder vivantes, t'sais, qu'on puisse se joindre à ce niveau-là, que nous, t'sais, nous aussi, notre langue est importante, mais il faut la considérer également. On dit souvent que nos langues sont en danger, mais... Moi, je dis plutôt que nos langues ont besoin d'espace, mais aussi d'être accueillies. Moi, je souhaite qu'un jour, on puisse me comprendre, qu'on puisse tous se comprendre ici, sur ce territoire, puis que la langue autochtone prenne une place, prenne sa place.
Tu parlais du fait que tu aimerais que les gens se rappellent que les femmes autochtones sont belles, sont fortes. Mm-hmm. Justement, souvent, malheureusement, tout ce qu'on entend comme récit par rapport aux femmes autochtones, c'est le fait qu'il y en a beaucoup qui sont disparues, qui ont été assassinées. C'est l'histoire la plus prédominante, on peut dire. Elle est très importante, cette histoire, mais il y a plus que ça. Je ne sais pas s'il y a une question là-dedans. Dans le fond, c'est un peu, j'ai vu ton exposition comme un autre côté.
Ben oui, c'est sûr que pour moi, ces femmes-là sont très importantes. Ce sujet-là est très important. Être autochtone, c'est lourd. Être autochtone, c'est pas juste être autochtone. C'est pas juste être... C'est ce qu'on aimerait, tu sais. On aimerait juste vivre nos vies, être des êtres humains, tout simplement. Mais il y a tellement de bagages qui viennent malgré nous, tu sais. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'être autochtone, c'est juste beau. Mais non, il y a tellement de bagages. Il y a tellement de choses qui, malgré nous, sont là, par exemple... Les femmes autochtones ont plus de chances de se faire kidnapper, ont plus de chances de subir la violence conjugale, ils ont plus de chances d'être assassinées, de disparaître. Donc, tu sais, tout ça, ça vient avec. Et ça aussi, il faut le comprendre. Il faut comprendre tous les préjudices qu'on nous avons vécus. Pour moi, c'est un sujet important. Les femmes autochtones disparues et assassinées. Mais pas juste ça aussi. Il y a aussi tout ce que les femmes subissent. C'est aussi la stérilisation forcée. C'est tout ce que... On essaie tellement d'éteindre la femme. Et nous, aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme? Tu sais, ce sont des questions qui me préoccupent et qui sont importantes pour moi parce que ces choses-là sont récentes puis sont présentes. Mais on dirait que les gens l'oublient tellement vite. Des fois, ça me met sans mots, en fait. Ouais.
Et puis, tu as une fille. J'imagine que tout ça, ça doit inspirer aussi le travail que tu fais.
Oui, ça inspire beaucoup. Ma fille m'inspire beaucoup. Mais aussi, c'est le fun de découvrir sa fille aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'elle est? Je me pose souvent des questions. Qu'est-ce qu'elle deviendra un jour? Mais je commence à voir qu'elle a le rythme dans le sang. Puis ça, je suis contente parce que moi, je fais beaucoup de danse. Puis elle m'a beaucoup inspirée dans l'œuvre aussi que j'ai exposée. C'est ça que je souhaite, tu sais, pour sa génération, tu sais, qu'il puisse connaître la douceur. Puis la bienveillance, parce que plus tard, par exemple, moi, je suis beaucoup dans les... Ah, moi, je me considère comme une militante, comme une personne qui veut faire réfléchir les gens, qui veut que les gens puissent être plus sensibilisés aux questions autochtones. Et parfois, ça peut être très dur, ça peut être très épuisant aussi, ça peut être démoralisant. Mais je me rends compte que, tu sais, je fais ça pour ma fille, tu sais, je fais ça pour qu'elle n'ait pas à vivre ces moments-là. Je sens qu'elle aura d'autres choses à combattre, mettons. Mais à combattre, c'est un gros mot. Elle aura beaucoup de choses à faire face. Mais j'espère que ce ne sera pas les choses auxquelles je fais face en ce moment. que ça aura évolué à ce moment-là.
Justement, tu es danseuse de powwow. Mm-hmm. Peut-être que tu fais d'autres danses aussi. Ouais. Tu m'as parlé un peu de cette partie-là de ta vie créative.
Je me fais souvent inviter par une de mes amies qui fait de la danse et de la danse contemporaine. Et elle organise souvent des rencontres puis ça, avec d'autres créateurs autochtones. Et ça, c'est vraiment inspirant. C'est vraiment un univers où je me sens vraiment à ma place, où je me sens, où je peux parler de mes rêves, par exemple. Ça, j'adore parler de mes rêves. Ça, c'est des choses aussi qui me passionnent, qui m'inspirent. Les rêves, mais justement, où on peut incarner d'une autre façon notre histoire. Donc, c'est ça qui m'intéresse. T'sais, je fais de la performance aussi, donc ça rejoint quand même au mouvement, à la danse. Et en fait, la danse, ça rejoint... Une des questions que j'aborde dans mes œuvres, dans mon travail artistique, c'est l'endurance, le corps, la corporalité, tout ça. Je fais de la course à pied aussi, donc ça rejoint également la danse. Et quand je fais ça, c'est parce que je réfléchis beaucoup à nos ancêtres qui étaient nomades, donc qui voyageaient à travers le territoire pendant des heures, toute la journée, parce qu'ils s'en allaient rejoindre un autre campement. Et c'est ça que j'essaie d'explorer. Tu sais, je peux courir pendant une heure et demie, mais tout en ayant cette réflexion-là, leur corps, comment leur corps définissait leur endurance. Parce que, tu sais, marcher, c'est beaucoup de kilomètres, là. Mais aujourd'hui, tu sais, moi, en tant que coureuse, c'est ainsi que je représente mon endurance. Mais autrefois, tu sais, en tout cas, c'est ça. C'est beaucoup de réflexion à ce niveau-là. Mais aussi la danse, ce que je retrouvais avec le... Parce que ma catégorie de danse demande beaucoup de cardio. Mais je rejoins comme mon passé, tu sais, je rejoins ma jeunesse à travers la danse parce que j'étais très en forme. Quand on est enfant, on est en forme, tu sais, on peut tout donner puis pas être fatigué. Mais c'est ça que je retrouve en dansant aujourd'hui parce que je me retrouve dans ma jeunesse.
Je trouve qu'on est dans une période où les gens non autochtones s'intéressent de plus en plus aux connaissances autochtones, aux perspectives autochtones, ce qui est bien. D'un autre côté, au niveau politique, on ne voit pas nécessairement ça se traduire en vrai changement politique ou plus de droits, plus d'amélioration dans la condition de vie des peuples autochtones ou au niveau des territoires, etc. Je ne sais pas si tu as des pensées là-dessus. Où est-ce qu'on est rendu présentement et quel genre de changement social tu souhaiterais voir?
Oui, en fait, moi, je pense beaucoup à ma communauté, premièrement, au niveau social. Ce que je souhaite, c'est que les gens soient plus conscients qu'on est capable de s'en sortir, qu'on soit en mesure de se développer en tant qu'individu, puis ensuite en communauté. Souvent, j'essaie de me concentrer là-dessus. T'sais, qu'est-ce que je peux apporter comme changement à ce niveau-là? Je pense beaucoup à la jeunesse autochtone, mais aux jeunes Atikameks, pour moi, c'est très important, là. C'est ce que j'espère, inspirer comme les jeunes afin qu'ils puissent se développer en tant que personne, mais aussi se surpasser, aller plus loin et continuer dans leur cheminement personnel, mais aussi scolaire, là. Moi, en disant, j'ai plus tendance à vouloir me concentrer là-dessus, qu'on puisse se développer en tant qu'individu, mais ensuite en tant que groupe, en tant que communauté, pour qu'on puisse ensuite aller dire que c'est ça, nous, on est rendu là et on veut du changement, tu sais. Qu'on puisse inspirer le changement de l'intérieur, tu sais. Après ça, on pourra se concentrer à l'extérieur. C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, il y a beaucoup de... Je sais que ma nation travaille à ce niveau-là, tu sais, elle travaille sur des négociations, tu sais, mais nous, on continue, par exemple, à protéger notre territoire, à vouloir que notre territoire soit considéré, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas juste nous, c'est pas juste les Atikameks qui veulent occuper le territoire, on pense beaucoup aussi aux animaux, on pense aux orignaux, on pense à notre pratique avec l'écorce de bouleau, tu sais, toute la connaissance qui est reliée au territoire. Tu sais, on souhaite pouvoir que les gens puissent se sensibiliser à ça, tu sais, que c'est pas une question d'argent, tu sais, c'est vraiment une question de culture, c'est une question de ce que nous sommes qui fait partie du territoire. Des fois, c'est tellement lourd, penser à la politique, penser à... Parce que je retrouve beaucoup cette insensibilité-là, le manque de sensibilité, puis... Alors que, tu sais, tout ce qu'on demande, c'est pouvoir pratiquer notre culture.
Je ne sais pas si tu travailles sur quelque chose d'autre, quelque chose qui s'en vient. Est-ce qu'il y a des projets en cours?
Pour l'instant, j'ai je fais des petits contrats en ce moment, tu sais, mais j'ai déjà une autre exposition en tête. Et j'aimerais beaucoup faire des collaborations aussi avec d'autres artistes atikamek, mais aussi d'autres artistes d'ailleurs. Puis, ah oui, puis j'ai d'autres, un autre projet, mais ça, c'est comme un projet plus personnel, là, tu sais, mais plus personnel, plus qui va toucher aussi d'autres communautés, moins artistiques, mais plus sociales, mettons. On aimerait se rejoindre en tant que jeunesse de chaque nation au Québec, puis de se rejoindre ensemble. Je pense à un truc comme ça, là. Un événement rassembleur pour partager nos préoccupations sur les cultures autochtones.
Merci vraiment beaucoup d'être venu et de partager tes pensées avec nous.
Ah ben, ça fait plaisir, Nicoach.
Vous venez d'écouter une entrevue avec l'artiste atikamekw, Catherine Boivin. Cet été, son installation vidéo, Nicotroisso, a été présentée à Daphne, le premier centre d'artistes autochtones à Jojage, ou ce qu'on appelle Montréal. Son œuvre m'a profondément touchée et j'ai vraiment apprécié notre échange. Je souhaite, pour ceux et celles qui nous écoutent, que vous auriez un jour la chance de voir le travail de cette jeune artiste. À mon avis, elle a beaucoup de choses importantes à nous transmettre. Merci, encore une fois, à Catherine Boivin d'avoir pris le temps de partager ses réflexions avec nous. Pour cet épisode de notre balado « Future is now », j'ai été votre animatrice, Caroline Kunzley. En espérant vous avoir offert une petite dose d'inspiration, à la prochaine.
You've been listening to Future is Now, a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Gallery's Sharzad Arshadi and Caroline Kunzley. This project was made possible by funding from the Canada Council for the Arts.
Future is now.
Music is the universal language. Yo, yo, ya, ya. Yo, 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 ya, ya. Oh, wait, that's not my song. Oi, galera. Tá escutando CKUT na 90.3. Bonjour tout le monde, vous êtes sur CKUT 90.3. Vous écoutez Bombo Laissé. I don't know how to be cool in English, but I'm gonna try. You're listening to some Brazilianized music with Bombo Laissé on CKUT 90.3.